en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Elisabeth Antebi.
Bonjour, ici Elisabeth Antebi qui fait l'habit vert, et nous allons savoir qui n'est pas vert, de Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, avant de vous présenter, alors il paraît que l'habit vert n'est pas vert.
Non, non, il est bleu nuit. Heureusement, parce que sinon on aurait l'air d'un chasseur autrichien ou d'un gendarme. Non, non, il est bleu nuit et c'est les broderies qui sont vert doré.
Ah, bon.
Mais l'habit vert, c'est une erreur. Je ne sais pas d'où ça remonte.
Bon, alors, très bien. Donc, l'habit vert qui n'est pas vert de Dominique Fernandez. Parce que, alors, il faut dire donc, que beaucoup de gens connaissent Dominique Fernandez, qui a été à la fois, qui est à la fois écrivain, bien entendu, amoureux de l'Italie, amoureux de Pavese et de Pasolini, qui a été aussi journaliste, alors c'est pour ça qu'on le connaît peut-être plus dans le microcosme parisien, journaliste à Nouvel
Mais
Observateur.
Qui est toujours, quand vous mettez au passé.
Oui, pardon. Pardon, mais toujours, oui. qui est toujours journaliste, donc qui a été à l'Express, je crois.
Ouais,
c'est
voilà.
Ça que je voulais dire. Au Nouvel Observateur. Qui est aujourd'hui journaliste.
À l'Observateur,
toujours, voilà. Et qui publie d'ailleurs un livre dont nous allons parler, dont nous pouvons parler tout de suite. Il l'a écrit, paraît-il, il l'a fini hier.
Non, il est publié.
Il est sorti
en librairie hier.
Il a publié hier et il s'appelle.
Il s'appelle Place Rouge. Et comme le nom l'indique, ça commence à Moscou, en tout cas, Place Rouge. Et ça se passe à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Et encore plus loin dans le nord, aujourd'hui. C'est un roman russe contemporain.
Alors pourquoi la Russie? Parce que ça, c'est pas un de vos grands thèmes.
Si, parce que vous avez dit que j'étais amoureux de l'Italie, mais je suis aussi, autant, sinon plus, amoureux de la Russie. Et j'écris pas mal de choses sur la Russie, sur Saint-Pétersbourg, et pour moi, c'est le grand pays de la culture, aujourd'hui dans le monde. Ils sont beaucoup plus cultivés qu'ici. La place de la lecture, du spectacle, de la musique, de la danse est énorme. Et c'est un pays où il y a un grand souffle, enfin une grande. C'est pas du tout un pays matérialiste.
Alors c'est en France qu'on a fait de la mémoire table rase.
Oui, mais c'est en France. Alors malgré leurs 70 ans de matérialisme historique, ils sont restés un peuple spirituel, intellectuel, enfin culturel. Alors...
Peut-être à cause de ça, parce qu'ils nous ont cachés, sauvés.
Non, je crois que naturellement, ils sont comme ça. Et quand on rentre en Europe, en Occident, moi je suis toujours un peu déprimé de voir ce consumérisme, cette... Bon, bref, la Russie, moi, c'est mon pays d'élection, mon domaine intellectuel depuis que j'ai 15 ans. Enfin, c'est...
Alors, il y en a plusieurs, quand même. Il y a plusieurs choses en vous. Il y a plusieurs... Déjà, à l'âge où on arrête de lire Tintin, vous entrez à l'Académie, enfin, à peu près à l'âge où on arrête de lire Tintin, vous entrez à l'Académie. Est-ce que c'est une fin, l'Académie? Ou est-ce que c'est un début d'autre chose?
Oh, pas du tout. Pour moi, ce n'est pas une fin. Ce n'est pas un but. D'abord, ça n'a jamais été un but. Et je n'aurais jamais pensé à me présenter sans la pression affectueuse de beaucoup d'amis qui y sont déjà. Dont certains, ils sont amis depuis je ne peux pas calculer le nombre d'années. Mais non, c'est une étape. C'est une étape qui est, je trouve, très intéressante. J'ai commencé mes travaux, là, hier. Et c'est passionnant.
Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait le dictionnaire.
Ben, je suis dans la commission du dictionnaire. Oui. C'est-à-dire que le matin, pendant 3 heures, on se réunit. Jeudi matin, on est 4 ou 5. C'est très, très... Et on discute les mots.
Quel était le mot? On a le droit de dire le mot?
Non, c'est la lettre P. On révisait hier. Une partie des travaux qui avaient été faits avant moi. Mais on corrigeait aussi. Et ce qui est très intéressant, c'est chaque mot. C'est pas qu'on pinaille sur la définition, c'est que chaque mot soulève une série de notions, qu'on essaye de faire entrer dans la définition, et c'est passionnant. C'est un exercice intellectuel, on cherche les références, les citations, on ajuste la définition, c'est absolument passionnant.
Alors on rêve sur les mots, tiens, c'est la première fois qu'on...
Oui, parce qu'il y a un mot plané, par exemple.
Oui.
Il y avait le mot plané. Bon, il y a tous les sens planés traditionnels. Et moi, j'ai fait remarquer qu'on avait oublié le mot musical. Quand on dit la musique des Pink Floyd, on fait planer. C'est encore un sens un peu différent de...
Bon, c'est-à-dire qu'il y a aussi la fumée qui fait planer.
Oui,
la musique des Pink Floyd.
C'était pas mis, vous voyez, c'est un sens nouveau. Mm-hmm. Planer, on dit rêver. Mais il y a plus fort que ça. Une musique qui fait planer, c'est encore une petite nuance, vous voyez. Et chaque mot, comme ça, amène des adjonctions, des... Il y a aussi des choses qu'on vieillit, des choses qu'on supprime.
Alors, c'est bien que vous soyez à la lettre P, parce que dans votre discours de l'Académie française, vous avez immédiatement parlé de père.
Oui.
Hein, de votre père, à la lettre P. Et vous lui avez rendu hommage. Alors, je me suis dit que ça faisait, c'est peut-être une génération, c'est peut-être une... Pour la première fois, beaucoup d'enfants parlent de leur père qui a, disons, fauté politiquement. Il y a Frédéric Vitoux, il y a Marie Schex, il y a Dominique Jamais. Pour la première fois et pour la seconde fois, un père entre à l'Académie française, parce que vous savez peut-être que Frédéric Vitoux a aussi beaucoup parlé de son père dans son discours.
Oui, je connais bien, t'as mes amis plus proches.
Donc, et c'est très touchant, c'est-à-dire que dans les deux cas, c'est quelque chose, vous avez fait passer votre père presque avant vous, tous les deux.
Oui, mais mon père était un écrivain célèbre à l'époque, entre les deux guerres, c'est un critique.
Alors racontez qui est votre père.
Alors c'est Ramon Fernandez, qui était fils d'un Mexicain, et Mexicain lui-même naturalisé, était le ami de Proust, très jeune, pendant la guerre, pendant la Première Guerre mondiale, et après est entré à la Nouvelle Revue française, qui était la grande revue d'entrée de guerre, la revue Gide, et mon père a été le grand critique entre 23 et 40, enfin pendant toute l'entre-deux guerres, qui était une période très riche pour la littérature française. C'était le grand ami de Mauriac, qui a été mon parrain d'ailleurs, c'était l'ami de Gide, de Malraux, de Martin Dugard, enfin de Poland, tout ce qui a compté.
Et je crois que Gide, vous avez été le premier à faire sa biographie.
Non, ça c'est une erreur.
Ah bon, parce que beaucoup de gens le disent, j'ai fait aucune biographie de Gide. Oui, parce que je n'ai pas trouvé de biographie.
Non, ça n'a rien à voir. Mon père a écrit un livre sur Gide qui n'est pas une biographie.
Ah d'accord.
Ça c'est les erreurs qu'on se
après. Bon, alors on arrête cette erreur, on le dit nettement.
Non, mais il a écrit, c'est un critique, il a écrit un livre sur Molière qui est vraiment génial.
Et sur Balzac aussi.
Sur Balzac, sur Proust, le premier grand livre sur Proust. Bon, ça c'était un grand critique, vraiment reconnu. Et puis. Il s'est mis à faire de la politique, d'abord à gauche, en 1934, il était presque communiste, et puis après le Front Populaire, après tout ça, il est devenu fasciste, enfin le parti Doriot, qui était
comme
le fasciste
Doriot,
français.
Comme Doriot, d'ailleurs, j'allais dire comme
voilà. Bon, ça, on peut comprendre, parce qu'il y avait, juste avant-guerre, il y avait un grand trouble, vous savez, il y avait la corruption,
l'instabilité. Puis le national était socialiste,
l'instabilité parlementaire, tout ça. Seulement, malheureusement, après, il est devenu collabo pendant la guerre, en 1940. Il aurait pu rompre quand même avec Doriot. Et il a été collaborateur. Il a fait le voyage de Weimar avec des intellectuels français, Brasillac, Drieu, Bonnard, tout ça. Il n'a jamais rien fait de répréhensible. Je n'ai rien trouvé de tel. Mais il a quand même écrit dans la presse collabo, la Gerbe, tout ça. Et d'ailleurs, ça a occulté son œuvre après-guerre. Il a disparu complètement, même une biographie.
Oui,
je m'emploie à le faire rééditer parce que. Son œuvre littéraire n'a rien à voir avec son action politique.
Et vous-même, comment vous l'avez vécu? Parce que vous êtes né donc en 29, je crois.
Oui, non, mais moi, mon père, mes parents étaient séparés très tôt.
Vous aviez 10 ans, oui, 15 ans.
Non,
oui.
J'avais 15 ans quand il est mort, mais quand j'avais 3 ans, mes parents sont séparés, c'est très mal passé. Je voyais mon père le dimanche pendant la guerre, il était très occupé. Moi, je n'ai pratiquement pas connu. Et puis, à 15 ans, à l'époque, on était vraiment en mômes, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Donc, moi, je n'ai pas connu. Et il est mort le 2 août 44, et je dois dire. Sinon, il aurait été arrêté, jugé, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Bien qu'il n'ait rien fait. Au contraire, il n'est pas du tout antisémite, lui, contrairement à Drieu ou Brasillac. Il a sauvé beaucoup de Juifs, personnellement. Il a fait l'éloge de Bergson en 1941. C'est le seul dans la presse collabo qui a fait l'éloge d'un Juif. Et il a publié un livre sur Proust, qui était aussi le contraire. Proust, c'est le contraire de l'idéologie dominante. Donc, c'était très con. Donc, je suis en train d'écrire un énorme livre sur lui pour essayer de comprendre le mystère de cet homme.
Pour vous, c'est resté un mystère.
Ah oui, mais je ne comprends pas comme un homme intelligent qui était anglophile, qui allait faire des conférences en anglais en Angleterre, qui était pour qui l'Allemagne ne comptait pas, qui avait horreur du nazisme et tout ça. Je ne comprends pas comment il est allé, invité par Goebbels à Weimar.
Aucun de ses amis ne vous a donné de pistes.
Ils sont tous morts maintenant.
Oui. Non, maintenant, mais autrefois.
Oui, mais j'ai commencé trop tard. C'est bon, on s'intéresse à ses origines quand on vieillit soi-même. Ou quand on est jeune, on n'a pas envie.
Bon, alors on va revenir sur votre jeunesse.
Oui.
Non, je voulais parler de ça parce que maintenant, c'est vrai que c'est toute une génération qui parle d'un père. Parce qu'autrefois, c'était les pères des enfants glorieux qui parlaient de mon père, ce héros au sourire si doux. Maintenant, de plus en plus, des gens font la part des choses entre la politique et l'homme.
Parce qu'il y avait quand même un grand mystère sur cette époque. Il y a beaucoup de gens qui sont trompés. Mon père, je crois, de bonne foi. Mais enfin, il s'est quand même trompé de façon... Un homme si intelligent, c'était un des hommes...
Oui, Weimar, c'était quand même embêtant.
Un des hommes les plus intelligents de son temps. Gide disait qu'il était si intelligent qu'il comprenait ce qu'on disait avant qu'on ait parlé. Enfin, c'est vraiment un phare, une lumière. Enfin,
et alors, le poisson pourri par la tête.
Tombé dans cette idéologie primaire, grossière et barbare. Bon, on ne savait pas tout ce qui... Les camps, on ne savait pas. Mais enfin, quand même, Hitler, on savait ce que c'était. Donc voilà, c'est...
Donc vous allez faire un livre là-dessus, sans doute.
Bah, je suis en train, un énorme livre, oui, très avancé.
Très bien. Bon, alors nous allons revenir à votre jeunesse. Et vous, donc, vous êtes normalien très tôt.
Normal.
Vous devenez professeur à l'Institut italien, alors de... L'Institut français, pardon, de Naples.
Non, mais attendez, je fais un petit tour. Oui. Je viens normalien en 50, si je me rappelle bien. Et j'aurais dû faire une agrégation de lettres classiques, français, latin, grec. J'étais programmé pour ça. Et j'étais germaniste, par ailleurs. Et puis, à 20 ans, j'ai fait un voyage en Italie avec un groupe d'étudiants. Et en principe, c'était pour aller voir le pape Pie XII. C'était l'année du jubilé. Donc, j'ai vu le pape Pie XII. J'ai baisé son anneau. Je veux dire que j'ai eu une impression horrible de cet homme. Mais enfin,
pourquoi?
Mais parce que c'était...
Il était vieux?
Ascète, méchant. Puis, enfin, on savait que... Il n'avait pas quand même agi pendant la guerre d'une façon très active en faveur des... Il était quand même pro-allemand, enfin...
Laissons discuter les historiens, discuter, parce que c'est très complexe.
Moi, il a été antipathique
tout de suite.
Peu importe. De toute façon, je n'aime pas les papes, ça c'est autre chose. Mais ça, c'était un prétexte pour aller en Italie. Et j'ai eu un tel coup de foudre pour ce pays, indépendamment et contre le pape.
Italie, à Rome, bien sûr.
Non, c'est ailleurs, bon, on est arrivé au bord de la mer, près de Gênes. J'avais jamais vu la Méditerranée. Ah, c'est passé pendant la guerre, on n'allait pas, on ne voyageait pas. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde voyage. C'est mon premier grand voyage. Et j'ai eu un tel coup de foudre, j'ai décidé de changer complètement le cours de mes études pour vivre en Italie. Et donc, de faire une agrégation italienne, je ne savais pas le moindre mot.
Non,
c'était vraiment... Ma vie a changé, là. Oui. Ça a été comme... J'étais une émotion physique devant ce pays, la gentillesse des gens, la beauté.
Et puis Gênes, il faut connaître Gênes aussi.
L'odeur, Enfin, après Paris, qui était une ville qui restait une ville où les gens sont comme ça, pas très aimables, enfin, assez revêches. Tel bonheur de découvrir ce pays que j'ai décidé. Donc, en tant que normalien, j'avais droit à 2 ans de bourse en Italie. Donc, j'ai vécu 1 an à Pise et 1 an à Rome où j'ai appris l'italien, tant bien que mal. Et surtout, j'ai vécu là. Et ce coup de cœur ne s'est pas affaibli. Chaque fois que je mets le pied en Italie, ce qui sera demain, la prochaine fois, je vais à Milan, j'ai cette même émotion physique.
Alors, donc, vous commencez comme vous êtes un homme sérieux, vous faites une thèse. D'abord, il fallait faire une thèse pour être agrégé, évidemment.
Non. Oui. L'agrégation, c'est là avant.
Ah, pardon, l'agrégation est avant, la thèse est après.
Oui, bien
pour
après,
faire le doctorat, bien sûr.
Oui, je voulais être prof d'université, donc je fais ma thèse sur Pavese, qui est un écrivain turinois. Remarquable, classique, moderne. Et donc, voilà.
Alors, il y a une chose qui est intéressante, c'est que votre thèse, excusez-moi d'avoir mélangé l'agrégation et le doctorat, dans votre thèse, c'est l'échec de Pavese. Oui. Et alors, j'ai relevé, je ne sais où, je vais le dire de mémoire, mais j'ai relevé que souvent revient l'idée, et d'ailleurs dans votre discours de l'Académie française aussi, vous avez parlé du livre qu'aurait pu écrire Jean Bernard à qui vous succédiez, qui était un livre sur l'enfant perdu.
Oui.
Et on retrouve un peu, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, ce thème dans votre œuvre. C'est-à-dire, il y a l'échec de Pavese, il y a la gloire du paria.
Oui, c'est très, très fort.
Et souvent, filigrane, en fait, on trouve dans presque tous vos titres, je ne sais pas, il y en a quelques-uns, cette idée du paria, du rejeté. Alors, dans les amours, ça devient les amours non pas interdites, mais je ne sais plus lesquelles. Les amours, interdites ou proclamées, donc c'est un peu la même. L'amour qui ose dire son nom, donc c'est un peu la même chose. Est-ce que finalement, en relisant votre vie, parce qu'on relit sa vie aussi quand on écrit son discours de l'Académie, je suppose, cette idée d'échec, de côté paria, vous revient ou ça vous semble anecdotique?
Ah non, ce serait important. Non. Alors, l'échec de Pavese, c'est parce que Pavese lui-même a une vie d'échec. Il s'est suicidé à 42 ans. Alors, c'est un grand écrivain, mais depuis l'enfance, l'échec était programmé en quelque sorte. Et moi, jeune, j'étais suicidaire aussi.
Parce que vous êtes un homme de toutes les réussites. Enfin, je veux dire,
oui,
non, c'est
attendez,
vrai.
J'en sais rien. Ce que veut dire réussite. Hein.
De réussite.
Oui,
disons,
mais jeune, je vous dis, j'étais suicidaire. En partie à cause de l'histoire de mes parents, qui sont séparés quand j'avais 3 ans, et de façon très mal. c'est-à-dire qu'ils ne sont plus jamais revus. Aujourd'hui, les gens qui divorcent, moi-même, j'ai divorcé, mais le lendemain même, j'allais dîner avec mes enfants et mon ex-femme, parce que pour assurer aux enfants, justement, une continuité.
Mais votre mère était française, je crois, non ?
Ma mère était française. Mmh. Mais à l'époque, les gens ne savaient pas divorcer, mmh. C'était un drame, c'était un échec. Aujourd'hui, c'est plus un échec, le divorce. On constate qu'on n'est plus fait pour vivre ensemble.
On ne se marie pas d'abord aujourd'hui.
C'est pas un drame, oui, bon. Oui.
Déjà.
Mais enfin, on peut vivre ensemble sans se marier, puis se séparer, c'est pas un drame. Donc, à l'époque, ils sont séparés vers 33, 34, c'était, surtout pour ma mère, un drame affreux. Et donc, elle a vécu ça, et moi, ça a certainement pesé sur ma petite enfance. Donc, les sentiments d'un échec. Elle a vécu sa vie, propre vie, comme un échec, et mon père aussi, d'ailleurs, parce qu'il savait très bien qu'il faisait une bêtise énorme en s'engageant dans la collaboration.
Oui, donc mais ça, jusqu'à la fin, donc, il y a toujours le paria. Enfin, il y a l'idée aussi, alors là, qui est assez romantique, il faut le dire aussi, mais chez vous, il y a cette idée que, de paria, de toujours de traverser les frontières. De
oui, mais ça, parce que c'est une autre oui. histoire, c'est que c'est ma propre vie, puisque moi, je me suis découvert
c'est
très tôt homosexuel, à une époque qui a complètement disparu aujourd'hui, qui est où on était paria, vraiment. Oui. Quand j'étais jeune, écoutez, moi, je le sais, j'étais quand même normal et en cagne, donc, et anormal. Et on ne parlait jamais de ça. Même quand on parlait de Platon ou de Rimbaud ou de Verlaine, les professeurs éludaient complètement la question.
Enfin, Proust, Gide, on en parlait. On en parlait puisqu'il en parlait. Il n'arrêtait pas d'en parler.
Oui, mais Gide, d'abord, c'est pas vraiment homosexuel, Gide. C'est encore autre chose. Il aimait les petits garçons arabes. C'est pas du tout ça. Non. Non, homosexuel, c'est un amour consentant entre deux adultes.
Oui, c'est vrai.
C'est très différent.
C'est vrai que Gide,
et puis Gide et Proust, oui, il y avait Cocteau, tout ça, mais c'était des mythes. C'était pas
il y avait Mauriac. Cocteau. Cocteau disait, pour le premier livre de poèmes de Mauriac, moi je m'en souviens, j'étais toute môme, donc c'est pas d'aujourd'hui, il disait, c'était les mains jointes, et il disait, quand il joignait les mains, il en trouverait bien autre chose.
Oui, mais ça, c'est une vacherie de Cocteau.
Et non, mot de Mauriac qui disait Cocteau tourne autour de la colonne de Louxor, là, et de l'odalisque de Louxor, et puis dit mon Dieu, quelle gourmandise.
Oui.
Bon, tous les salons répétaient ça. Oui.
Non, attendez, non. Écoutez, moi, je sais ce que j'ai vécu quand même.
Alors,
ça, c'était des choses mythiques. Devant Mauriac, on n'en parlait pas comme dans ces termes-là. On connaissait Gide, Proust, même. Platon, Verlaine, Rimbaud, des Anglais, etc. Wilde, évidemment, qui est quand même assez dramatique.
Oui, Wilde, c'est dramatique.
Dans la vie quotidienne, il y avait deux hommes vivant ensemble, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Deux hommes moyens, deux citoyens lambda. Vous savez, la notoriété assure l'impunité, faites ce que vous voulez. Bon, ça n'existait pas. Et moi, jeune homme, quand j'avais 20 ans, je croyais que je me sentais comme un paria, comme une espèce de monstruosité, comme une aberration. J'avais des camarades certainement comme moi, mais on n'en parlait jamais. C'était impossible, inconcevable même d'en parler.
Mmh.
La libération, ça a été vraiment mai 68, symbolique. Vous voyez, là, ça a sauté tout d'un coup. Quelque chose a changé. Mais en 68, j'avais déjà 40 ans à peu près.
C'est en 68 que vous écrivez Porporino, non ?
Après, en 74.
Ah oui, en 68, vous aviez déjà, non ?
Non, j'avais écrit des choses, mais pas là-dessus.
Oui, je sais, oui. Mais...
Non, vraiment, la libération des mœurs,
oui.
toutes les mœurs d'ailleurs, Ça date, vraiment le verrou qui a sauté, qui a libéré la société française.
Mm-hmm.
C'est pour ça que ceux qui attaquent 68, moi, je les ai dans le nez, hein, parce que je trouve que c'était capital. Il n'est pas resté grand-chose politiquement de cet événement, mais il est resté une espèce de joie de vivre qui a jailli. Moi, je me rappelle très bien comme c'était avant. On était, les gens comme moi, c'était une souffrance épouvantable. D'où cette notion de paria, d'échec, de
marge.
Et ça y est, on lisait les psychanalystes à l'époque, Freud, qui m'a beaucoup marqué. Or, c'est épouvantable quand on dit Freud, on voit son idée de l'homosexualité, c'est des sous-hommes pour lui, puisqu'il fait l'évolution. Il dit que d'abord, on est l'enfant et onaniste, le petit enfant, puis il y a une phase homosexuelle vers 13-14 ans, puis enfin, il y a la phase... hétéro, mariage, tout ça, et que si on n'arrive pas à la dernière phase, on reste des handicapés, des infirmes, et c'est pas encore.
Et
moi,
je le croyais.
Je trouve ça affreux, Freud, c'est à rejeter, c'est horrible, c'est une vision épouvantable. Et Moi, on y croyait parce que c'était l'époque était un but de ça et ça nous paraissait progressif même. Oui, tout ça contribuait à faire qu'on était vraiment de. Enfin, moi, j'étais très mal, quoi.
Nous quittons 2 minutes Dominique Fernandez. Nous allons faire une petite pause et nous revenons. Alors, Elisabeth Antibi revient pour l'habit vert de, qui n'est pas vert, de Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, donc, pouvons-nous dire clairement que vous seriez le premier gay élu à l'Académie ?
Le premier ? Non, il y en a d'autres, bien sûr, mais qui ne sont pas déclarés.
Ah, donc c'est le premier déclaré.
Moi, j'ai été militant, vous savez, j'ai écrit un livre pour le PACS avant qu'il soit voté.
L'étoile rose, etc.
L'étoile rose, oui. J'étais vraiment... militant et connu comme tel. J'ai collaboré à Guépier, c'est le journal militant à l'époque. Et donc, je suis le premier qui, en tant que, bien que gay déclaré et militant, ait été élu. Parce que les autres, jamais, ne se sont déclarés. Et ça, je sais que ça fait problème pour l'élection. Parce qu'il y a, quand même... L'homophobie n'est pas éteinte.
Est-ce que c'est de l'homophobie ou de se dire que c'est pas non plus la Légion d'honneur et qu'il n'y a pas de littérature, au fond, gay, que vous êtes un grand écrivain, mais vous n'êtes pas... D'ailleurs, les gens, au fond, qui ne sont pas homophobes, dont je suis, ne diraient pas Dominique Fernandez, c'est un grand écrivain gay.
Non, heureusement.
Ça ne me viendrait pas à l'esprit.
C'est absurde. En effet, on ne dit pas non plus que c'est un grand écrivain hétéro
Donc, est-ce que ça n'est pas aussi pour ça? Est-ce qu'on n'a pas penché dans l'autre versant, si vous voulez, et parce qu'on est gay et qu'on écrit... Il faut vous respecter. Est-ce que 68 n'a pas engendré, parce que je vais plaider quand même pour l'avocat du diable, est-ce que 68 n'a pas aussi engendré 69 et les excès 68-tard ?
Non. Non, vous savez, en tant qu'écrivain de romans, je ne suis pas gay spécialement, je suis écrivain, mais j'ai été militant.
Sinon, je ne pourrais pas vous lire.
J'ai été militant. Alors, l'opinion générale qui prévaut encore, à l'Académie et ailleurs, c'est que qu'on fasse ce qu'on veut, c'est la vie privée, mais qu'on n'en parle pas. Et moi, j'en parle. Mmh. Et dans le discours que j'ai trouvé très courageux et neuf de Pierre-Jean Rémy, il a dit, après avoir parlé de l'opéra et de l'Italie, ce qui était facile, il a dit, j'en viens au point essentiel, c'est les choix. Il n'a pas dit le mot d'homosexualité, mais enfin, c'était clair. Il a bien insisté sur le fait que j'avais pas caché mes meurtres, mais que je les avais mis en avant.
En exergue, oui.
Donc, c'est ça la différence, vous voyez.
Donc, finalement, votre élection, pour vous, fait entrer à l'Académie française bien des choses.
Mais
parce que vous avez parlé
raison.
De votre père, vous avez parlé
les
de
les deux
ça.
Raisons principales oui. Pourquoi j'ai voulu entrer, c'est parler de mon père, ce que j'ai fait, et faire entrer presque officiellement l'homosexualité, la faire admettre. Et c'est un petit pas, mais c'est plus nécessaire, si vous l'aimez encore, on voit bien. Si, vous savez, dans les provinces, dans les villages, dans les petites
c'est
villes,
vrai.
c'est pas acquis. Et même au sein de cette honorable compagnie, il y a des gens qui n'étaient pas très contents, je peux vous le dire.
Enfin, maintenant, ite missa est.
Voilà.
Maintenant, la messe est dite.
Voilà.
Oh.
Enfin, c'est important, oui. Vous voyez, c'est un petit pion qui avance. C'est comme ça que les choses avancent quand même, c'est pas...
Non, c'est bien actions. Évident, c'est bien
voilà.
Évident. Bon, alors pour revenir quand même au reste de votre œuvre, parce qu'il n'y a pas que ça. D'abord, quel est le livre que vous préférez, dont vous aimez parler ?
Moi, c'est un livre qui a été le moins lu, c'est toujours comme ça, vous savez, qui s'appelle L'amour. C'était un gros roman qui est apparu il y a, je ne sais plus très bien, les années 80, comme ça. C'est mon préféré.
Alors, de quoi parle-t-il ? Excusez-moi, ce n'est pas celui que j'ai lu. Oui.
Mais non, personne ne l'a lu.
Alors, racontez.
C'est un groupe de peintres allemands. Ça se passe en 1810, donc sous Napoléon. C'est un groupe de peintres allemands de Lübeck, au nord de l'Allemagne, qui partent à pied s'installer à Rome, comme c'était l'usage. Ils traversent l'Europe à pied, donc par Berlin, Vienne, Venise, Florence. Et il y a une base historique. Ils s'installent à Rome, dans un couvent. Et ils s'appelaient les Nazaréens. Il y avait Overbeck, le principal, qui est dans les musées. Et donc, j'ai raconté la vie de cette communauté, enfin, raconté à ma façon.
Oui, alors souvent, il y a le voyage, alors le voyage vers le sud, bien entendu, tout le temps.
Évidemment, c'est mon... Dès que je peux, je vais vers le sud.
C'est votre tropisme.
Ah oui, moi, je suis mexicain, quand même.
Ah ben, c'est pas au sud.
Ah si, c'est le sud, c'est le sud mental.
Oui.
C'est la Méditerranée, c'est la grande Méditerranée. Le Mexique, c'est l'Espagne, c'est donc l'Italie, enfin, je suis un homme du Sud.
Vous êtes allé au Mexique ?
Oui, je suis au Mexique.
Et vous vous sentez bien au Mexique ?
Oui, je me sens bien. Là, je reviens du Guatemala, là, il y a quelques jours, et je connais bien toute l'Amérique du Sud, et c'est l'univers baroco-méditerranéen.
Donc, ça n'est pas seulement mythique pour vous ?
Ah non, pas du
tout. Quand vous y vivez, vous...
Et j'ai eu une maison en Sicile pendant 20 ans, et maintenant, j'ai une maison près de Perpignan. C'est plus commode, c'est plus près, mais là où je suis, ça ressemble à Sicile. C'est du maquis, c'est sauvage, c'est...
Donc, vos deux sources d'inspiration, si on peut dire, c'est donc l'Italie et Saint-Pétersbourg.
Alors, l'Italie, bon, où j'ai vécu
beaucoup plus.
Parce qu'il
y a eu beaucoup. Non, il faut rappeler quand même certains de vos titres, parce que je les relis pour ne pas faire de bêtises. Bon, il y a la mer. L'un des très beaux titres aussi, c'était, il était facile à faire, vous me direz, mais enfin, il fallait le faire. C'est la mer Méditerranée.
Oui, mer, bien sûr. Qui n'avait jamais été fait, étrangement.
Oui, c'est pour ça que je dis que ça a l'air facile, mais enfin, fallait le faire. Donc, c'était en 65. Hein. Puis après, il y avait toujours en Italie donc les événements de Palerme. Il y a eu Porporino, les mystères de Naples, qui a eu un prix,
le Médicis.
Où là, vraiment, c'est un de vos grands livres, quand même.
Sur les castrats napolitains.
Oui, c'était magnifique. Magnifique, oui. Qu'il y avait quelque chose. Vous avez vu le film
horrible.
Farinelli.
C'est une grossièreté d'une bêtise inouïe. Enfin,
bon, d'accord. Alors, oui, parce que je me demandais ce que vous en pensiez. Bon, il y a eu les Siciliens, puisque on l'a dit, vous aimez la Sicile. Donc, il y avait quand même beaucoup le Sud. Et alors, ce qui me touche beaucoup, à part tout ça, c'est que il y a deux titres qui me touchent tout particulièrement, puisque je suis une grande helléniste. C'est le rapt de Perséphone.
C'est un livret d'opéra.
Oui. Et le rapt de Ganymède. Et Ganymède est un personnage cher à votre cœur, puisque vous l'avez sur votre épée, semble-t-il.
Oui, je l'ai fait mettre sur mon épée. Bah, c'est le jeune homme très beau qui a été ravi, dont Jupiter est tombé amoureux. Jupiter qui était bisexuel, disons. Il est tombé amoureux au point de...
Oh, c'est la seule fois, je crois, où il était bisexuel. Hein,
oui, enfin, une fois, il l'a été.
Il
l'a été. Et donc, il s'est transformé en aigle. C'était formidable. Lui, pouvait comme ça. Il a fondu sur ce jeune homme et il l'a emmené là-haut, sur l'Olympe. Et il est devenu les chansons des dieux, comme on dit pudiquement, alors que le dictionnaire de Furtière...
Ah, moi, j'ai toujours pensé qu'il versait le vin, c'est tout.
Furtière, qui a fait un dictionnaire, vous savez, qui était de l'Académie, qui a fait un dictionnaire au XVIIe siècle. Et la définition, c'est Ganymède, un très beau jeune homme, devenu les chansons des dieux et employé... également à d'autres activités plus criminelles. C'est dit comme ça.
Ah, mais moi, j'avais jamais...
Bah, c'était l'amant de Jupiter, quoi.
Vous m'apprenez quelque chose,
et donc,
mais pas des autres, quand même, si.
Ah, genre, Jupiter, personne n'est là. Bon. Je ne sais pas si un Apollon ou d'autres, non.
Oui, non, bénéficier.
Ça, on ne sait pas. Bon. En tout cas, c'est le symbole, si vous voulez, de le rap de Ganymède. C'est le raptus érotique, enfin, vous voyez,
alors, si je comprends bien, vous verriez plus en aigle, parce que visiblement, vous vibriez plus quand vous parliez de l'aigle que du petit Ganymède qui était volé.
Ah ben oui, moi, c'est très merveilleux de pouvoir... On voit quelqu'un dans la rue, hop, on l'emporte.
Bon, alors nous n'allons pas choquer plus longtemps les chastes oreilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre sur votre épée ?
Alors, en haut, il y a ça, le rap de Ganymède, une statue de Cellini, Benvuccini, que j'ai fait recopier. Et il y a une truie, en bas, sur la boutrolle, c'est-à-dire le bout du fourreau, une truie. C'est ce qu'ils appellent scrofa en italien, parce que la rue principale de Rome, personne ne remarque, mais s'appelle Via della Scrofa. Elle va de la place du peuple à la place Navone. C'est donc une rue principale. Et pourquoi elle s'appelle comme ça? Parce qu'à mi-chemin, sur le mur, il reste un relief très usé d'une truie. Donc moi, je l'ai mis comme symbole de Rome, que j'aime, pour ne pas mettre la louve, qui est vraiment trop banale. Puis la louve, c'est pas sympathique comme animal. Et ça évoque aussi l'époque où Rome est une ville de campagne, vraiment.
Et c'est Rome, plus, la cochonne.
Oui, mais en plus, la Scrofa, c'est la mer, par excellence. Ah oui, oui. C'est la mer généreuse, qui a 6 mamelles. Et donc, c'est aussi un symbole de la mer Méditerranée. Donc, c'est, vous voyez, ça symbole... Puis c'est amusant, ça surprend, donc ça m'a paru parfait.
À Ganymède et la truie, ça a dû faire de l'effet.
Oui, 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 ce n'est pas inhabituel.
Bon, très bien, mais ça n'était, vous n'étiez pas un homme habituel non plus. Bon. Alors, du côté journalistique, parce oui. que vous étiez aussi journaliste.
Très tôt, j'ai commencé.
Alors, justement, vous étiez très tôt parallèlement journaliste.
Très tôt.
Et pourquoi vous êtes... Vous avez ajouté ça, parce que finalement, vous étiez beaucoup de choses. Vous étiez professeur, vous étiez écrivain, vous étiez esthète.
Vous savez, c'est par hasard, parce qu'en 59, si je me rappelle bien, donc 59, un poète italien qui s'appelait Quasimodo a eu le prix Nobel de littérature. Personne ne savait au monde, en France, qui était Quasimodo. D'ailleurs, on ne sait plus non plus. Mais on savait, en 59... Oui, j'avais publié un livre en 58 sur le roman italien. Donc, on savait que j'étais italieniste. Et donc, on m'a téléphoné de l'Express pour me demander, vous voulez pas nous faire un article vite? Donc, j'ai fait l'article. Et du coup, ça a entraîné, je suis entré dans l'Express comme ça. Et après, j'ai quitté pour Observateur.
Et vous avez aimé être journaliste?
Ah, j'adore.
Croquer les choses.
C'est une école d'agilité intellectuelle. Et puis, moi, je suis l'actualité. Ça vous force à lire des livres, ça vous maintient, je veux dire, en activité, vous voyez. Et puis c'est très amusant d'informer les gens, d'essayer de les orienter, de décourager les mauvais livres, de pousser à lire les bons. Et quand on peut défendre un bon livre, c'est quand même formidable.
Pourquoi décourage-t-on les mauvais livres? Parce qu'au fond, pourquoi leur attribuer un peu de temps?
Non, en général, vous avez raison, parfaitement. Moi, je préfère faire l'éloge. Mais il y a des baudruches qu'il faut dégonfler quand même. C'est rare. Très rare, mais de temps en temps, il faut dire ça. Non, ce livre que tout le monde lit, c'est vraiment nul. C'est très rare. Moi, je préfère parler des livres que j'aime et les mettre en avant.
Quels ont été vos auteurs? Parce que vous parlez peu, finalement, des influences sur vous ou des gens que vous avez aimés à part. Bon, vous parlez bien sûr de Pavès.
J'ai toutes les influences, parce qu'en Cagne, qui est les classes préparatoires à l'école normale, on lit tout. Parce qu'il y a une épreuve de français, une épreuve de philo, une épreuve d'histoire, sans programme. Donc, il faut lire toute la littérature française. On est censé la connaître toute, c'est énorme.
Oui, mais enfin, moi aussi, j'ai fait Cagne. Je veux dire, c'est pas ça spécialement qui... C'est pas ces auteurs-là qui m'ont marqué, finalement.
Ah ben moi, parce que d'abord, j'ai réussi que la troisième fois, donc j'ai fait 3 ans de Cagne.
Ah ben
plus
plutôt,
l'époque Cagne,
oui.
Ça fait 4 ans. Remarquez,
il y avait des concours, oui, c'était
ça
difficile.
Ça fait 4 ans.
Oui.
Et donc là, j'ai eu les œuvres complètes de Rousseau,
ah oui,
de
vous
Balzac.
Avez eu le temps, là, oui.
Et avec passion, parce qu'à l'époque, je crois qu'on lisait plus qu'aujourd'hui.
Et vous l'aviez pas lu avant du tout?
Bah, vous savez, avant, je suis au lycée, j'ai un petit peu, enfin, c'est quand même là que j'ai lu, de 16 à 20 ans, tout ce que j'ai
appris. Donc, c'est des classiques, finalement. Vous parlez de Rousseau, vous parlez de Voltaire, ce sont des,
oui.
C'est
bah,
des classiques.
Oui, jusqu'à Proust, mais... jusqu'à Gide, enfin, voilà, puis maintenant, je lis depuis, évidemment.
Mais très français. C'est-à-dire,
ah non,
jusque-là,
j'ai tous les étrangers.
Bon.
D'ailleurs, dans mes articles, je parle surtout d'étrangers maintenant.
Maintenant, mais avant, c'est ça que je voulais dire, votre influence. Enfin,
les influences, écoutez, alors, les auteurs que je préfère, si vous voulez, c'est Stendhal.
Oui.
Ça, c'est mon. Je ne suis pas un maître, parce que ce n'est pas un maître, Stendhal, mais c'est ce que je préfère. Mmh. En plus, j'ai les mêmes goûts que lui,
c'est vrai,
je trouve.
Oui, oui,
l'Italie,
oui,
l'opéra,
oui.
À la fois.
Même la cristallisation.
La cristallisation,
oui.
Tout ça. Et je trouve Stendhal merveilleux. C'est l'homme le plus libre qui ait jamais existé pour moi. Donc Stendhal, et puis les Russes. Tolstoï, Guerre et Paix, que j'ai lu à 15 ans, en 3 jours et 3 nuits, qui est pour moi le plus grand roman jamais écrit. Et puis alors, certains écrivains anglais, comme Conrad, comme Kipling, Stevenson, et puis Alexandre Dumas, que j'adore. J'ai écrit un livre d'ailleurs sur lui. Et voilà, si vous voulez, les gens qui m'ont le plus marqué, mais tout ce qui est beau me marque, c'est ça qui est terrible. Je dis.
Nous allons encore faire une pause. Et nous revenons à la conclusion de Dominique Fernandez et de son ami vert, qui n'est pas vert. Nous reprenons l'habit vert qui n'est toujours pas vert avec Dominique Fernandez. Dominique Fernandez, alors vous n'êtes pas un homme... Vous savez, on disait... Sandra disait qu'il y avait les hommes debout, les hommes assis et les hommes couchés. Vous n'êtes vraiment pas un homme assis.
Ah non, ni couché, ni même debout. Je suis un homme qui marche, enfin qui prend l'avion plutôt. Et pour moi, le voyage depuis l'âge de 20 ans est fondamental. Je veux dire, je serais un autre homme si je n'avais pas voyagé.
Est-ce que vous voyagez toujours ?
Ah, tout le temps. Je reviens du Guatemala il y a 3 jours. Demain, je pars pour Milan. Et d'ici l'été, je vais aller au Kenya, si les événements me permettent, en Albanie.
Pourquoi au Kenya, d'ailleurs ?
Parce que j'ai un ami qui m'a invité, là, qui est aussi culturel.
Non.
Et puis, ça m'intéresse, je ne connais pas l'Afrique noire. En Albanie, il y a un autre ami qui m'a invité. En Irlande, il y a un colloque. Je vais à Naples pour faire un livre, alors un album sur Naples avec mon ami Ferrand Ferranti.
Avec qui vous avez fait beaucoup de livres.
J'ai fait 15 livres avec lui, un sur Saint-Pétersbourg, sur Prague, sur Séville, sur Palerme, sur Rome.
Et quel est le plaisir alors de faire double focus, enfin, la plume.
C'est passionnant parce
et
que
l'objectif,
c'est
qu'il y a un dialogue.
C'est pas du tout redondant.
Oui, est-ce qu'il y a un dialogue
parce que
entre
quand nous moi, je voyage avec lui, j'ai voyagé pendant 20 ans avec lui. Le matin, nous nous séparons, lui va faire ses photos, son parcours. Moi, je prends mes notes. Après, nous confrontons. S'il y a une chose que j'ai vue qu'il n'a pas vue, il va la voir réciproquement. Mais ce sont deux visions différentes. C'est pas que les photos illustrent le texte ou les textes commentent les photos. Il y a la vision du photographe et la vision de l'écrivain.
Est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, tiens, ça c'est pour lui, c'est pas pour moi ?
Oui, mais je veux dire, quand il y a une belle photo, je la commente pas, elle parle toute seule. Et quand il y a un texte qui dit quelque chose, il n'est pas une photo.
Et donc chacun son discours.
Et après, lui fait la maquette, il monte lui-même la maquette, et on a fait vraiment des livres qui sont très importants pour moi, parce que c'est le voyage culturel, c'est la tradition de Stendhal, d'ailleurs, de Montaigne, Stendhal, Chateaubriand. C'est pas du tout des guides, c'est un voyage culturel, c'est un voyage où je me promène dans un pays, le photographe se promène et on essaie de faire partager les émotions, les beautés qu'on a.
Quel a été votre premier voyage ?
Ben c'est enfin mon premier. Oh ben c'était en Angleterre, je crois, parce que à l'époque après guerre, on envoyait les jeunes en Angleterre parce que c'était le pays quand même qui avait sauvé le monde et c'était l'école de courage. Donc je suis en Angleterre que j'ai pas aimé, que j'aime pas.
Oui.
Voilà.
Et puis alors le premier voyage que vous avez aimé.
Ben c'est l'Italie.
Ah c'est l'Italie premier.
Oui, ça c'est. Après j'avais été en Allemagne pour faire mes cours de langue parce que j'étais germaniste. Donc, c'est un pays qui m'intéresse, comme l'Angleterre.
Mais oui, c'était laborieux, quoi.
C'est pas de l'amour, c'est pas de l'amour. Tandis que la Russie et l'Italie, quand je débarque là, moi, je sens ça physiquement comme l'amour. Quand vous aimez quelqu'un, vous avez une émotion physique. Et moi, c'est ça. Je rougis, je pâlis, je suis dans un état de transe. C'est idiot, mais c'est comme ça.
Et alors, qu'est-ce qui vous a donné le goût des voyages comme ça ? Pourquoi vous bougez tout le temps ?
Je crois que j'étais malheureux à Paris, c'est tout. J'étais malheureux, j'étais mal. Et puis, une fois que j'ai vu ce qu'a apporté un voyage, pour l'esprit aussi, ce que ça vous ouvre, ça vous débarrasse des préjugés. Je voyage dans le monde entier, toute l'Amérique, je connais très bien, du Nord et du Sud, surtout, je connais mieux.
Vous n'avez pas peur, parce que vous allez dans des pays quand même assez risqués, Kenya, Albanie.
Au Brésil, j'étais attaqué trois fois, j'étais étranglé, attaqué au
Canada. Mais c'est vrai, j'ai oublié que vous étiez suicidaire, ce que vous avez dit en début d'émission, donc il faut s'en souvenir.
Et puis, la Syrie, c'est un pays que j'adore, on a fait un livre d'ailleurs avec Ferrante, c'est un pays magnifique. Et puis, je suis allé en Inde, souvent, en Chine, où est-ce que je suis allé encore ? Enfin, toute l'Europe, évidemment. Il n'y a que l'Albanie que je ne connais pas où je vais y aller. Donc moi, je suis personnellement... Et on sait que j'aime voyager, vous savez. Il y a beaucoup d'écrivains qui sont très paresseux ou peureux, ou je ne sais pas, qui vont à Vienne, à Rome, à Londres, puis c'est tout. Moi, dès qu'il y a un pays un peu bizarre et lointain, qui a une mission, par exemple, on a ouvert un centre français en Géorgie, à Tbilissi.
Oui, oh, il est très bien, le centre français de Géorgie.
Tbilissi.
Oui.
Et ben, c'est moi qui l'ai inauguré.
Oui, j'ai un ami qui a été invité.
Il est
Claude de la Rue.
Ah oui, il est intitulé à Alexandre Dumas. Alors, les gens ne veulent pas aller à Tbilissi, parce que c'est compliqué, il faut changer d'avion, puis c'est très précaire, il n'y a pas d'eau, il n'y a rien, enfin, mais c'est un pays passionnant, moi, que j'ai adoré. On m'a envoyé à Haïti aussi, pour le bicentenaire de Dumas, parce que Dumas est originaire de Haïti, sa grand-mère était une esclave noire.
Ah, c'est vrai qu'il était haïtien, oui.
Sa grand-mère était une esclave noire, Zézette, et je suis allé rechercher la maison de Zézette, c'est une expédition extraordinaire avec un ami haïtien. Mais personne ne veut aller là parce que c'est dangereux, c'est vrai.
Et où elle est, à Jacmel ou
à Jérémy.
Ah, Jérémy.
On prend un petit avion branlant. Et puis, Port-au-Prince, ben, vous n'avez pas le droit de sortir après 5 heures du soir parce qu'il fait noir, il n'y a pas d'éclairage public. Et c'est des coupes-gorges. Tout le monde est armé. Enfin, ce sont des pays. Moi, ça m'excite. Ça m'amuse.
Oh, c'est maintenant, c'est récent parce qu'auparavant, ce n'était pas comme ça.
Je parle de 1802. Oui. En 1802. En 2002, et je suis allé deux fois à Haïti.
1802, c'est quand même.
Non, non. Oui. En 2002 et en 2005, je suis retourné. C'était très drôle. C'est dangereux. Pas le jour.
Ah, mais non, puis... oui, c'est très dangereux.
Mais voilà, mais c'est. Donc, moi, je voyage beaucoup. Ça, dès qu'on me propose surtout un pays que je ne connais pas...
Et donc, vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas répondu
non,
à ma question.
Non, je n'ai pas peur, moi, non.
Vous êtes dans la main de l'ange.
Voilà. Je suis
on n'a pas parlé de ce livre. Alors, voilà. Dites deux mots de ce livre, dans la main de l'ange.
La main de l'ange, c'est un proverbe espagnol, d'ailleurs. Ça veut dire le destin, enfin. Et ça m'a été inspiré par la figure de Pier Paolo Pasolini, le poète et cinéaste assassiné. Et c'est, ce livre m'a valu le prix Goncourt, d'ailleurs, en 82, je crois. Et donc, ça retrace son histoire et qui est parallèle à celle d'un autre sujet de roman, qui est Caravage, qui m'a inspiré un roman qui s'appelle La course à l'abîme, que les gens disent être un des meilleurs, je ne sais pas, moi je ne suis pas le juge. Et Caravage a également été assassiné sur une plage, dans la même condition que Pasolini, 300 ans avant. C'est très curieux, mais c'est des espèces de marginaux, violents, qui aimaient les voyous, et puis ça a mal fini.
Oui, qui aimait les voyous et la beauté, parce que quand même, il aimait Médée.
Les beaux voyous.
Il aimait l'évangile de Saint-Mathieu.
Les voyous et la beauté, c'est
pas Caravage aussi.
C'est pas incompatible.
Non, c'est vrai. C'est justement pas incompatible.
C'est souvent.
Oui, Rimbaud était un voyou.
Voilà, souvent très compatible.
Oui, vous vous sentez un peu voyou, pas du tout?
Hélas, pas assez, moi.
Parce que vous avez l'air sage pour un voyou.
Oui, mais moi, parce que j'ai une éducation très stricte, puis toutes ces études, vous savez, c'est pas... Vous savez, la cagne à Louis le Grand, si on n'était pas au niveau, on vous renvoyait. Donc, il fallait bosser comme des durs, là. Mais les voyous me fascinent parce que c'est un idéal de liberté, si vous voulez. Mais c'est inaccessible.
Et le danger vous fascine?
Oui.
L'Académie, il y en a des dangers?
Ah, je ne sais pas, on peut s'assoupir, peut-être. Je ne crois pas, au contraire, moi je voudrais apporter un peu de punch. D'ailleurs, il y en a beaucoup. La commission des dictionnaires dont je parlais, c'est vraiment des gens, là, on rit beaucoup.
Est le mot, s'il y a un mot que vous aimeriez, non pas introduire dans le dictionnaire, évidemment, mais insuffler dans le dictionnaire, ranimer dans le dictionnaire.
Ça, je ne peux pas vous répondre, parce que je suis vraiment neuf, je n'ai pas encore réfléchi, mais... Ça se présentera.
Est-ce que vous avez un mot que vous aimez vraiment, qui revient dans vos livres
Il y a le mot ange qui revient tout le temps.
C'est vrai que l'ange revient.
L'ange androgyne. Tiens, androgyne, on va bien intervenir. Parce qu'on a disait faux. L'androgyne, c'est celui qui tient de l'homme et de la femme, qui est du voyou et de la Vénus. Enfin, c'est quelqu'un de fascinant. Les castrats étaient androgynes. Enfin, vous voyez, il y a toute une... Alors, ça, oui, mais seulement, malheureusement, est à être P. Là, le matin et hier, l'après-midi, et comme c'est assez long, parce que c'est cyclique, vous savez, ça recommence.
Alors nous allons léguer le message de Dominique Fernandez. Quand on réarrivera à la lettre A, appelez-le pour le mot...
Androgyne.
Merci Dominique Fernandez, c'était La Vie Vert avec Elisabeth Antébi.